à tous et donc merci beaucoup d'avoir invité, donc discuter de la question de légitimation. Alors je ne suis pas politiste, donc vous m'excuserez pour mon approximation parfois de certains termes. Voilà, moi je viens plutôt des études urbaines, donc je suis ingénieur de formation et j'ai fait un travail de recherche sur les politiques de densification urbaine, donc une thèse en aménagement et urbanisme. Alors, c'est pas vraiment une discipline, c'est un peu un problème, mais j'ai essayé de vous convoquer ici et là différents types de travaux, empruntant à la géographie, à l'économie et à la science politique. J'ai essayé d'aborder dans mon travail des questions qui font un peu écho aux questions qui nous intéressent aujourd'hui. Donc, moi, je vais vous parler, en fait, effectivement, des politiques de densification urbaine à l'ère du développement durable. Alors, pourquoi je fais cette... je donne cette précision, parce que je vais dire très rapidement, en fait, la densification urbaine, elle n'a pas toujours été associée positivement, enfin, elle n'a pas toujours été préconisée, en tout cas, si on regarde l'histoire récente des politiques urbaines. Donc, je reviendrai très rapidement sur ce point-là pour ensuite évoquer en fait justement le fait que la densification en tant que on va dire mesure clé du développement urbain durable, elle est présentée comme un objet très scientifique, c'est-à-dire qu'on essaye de pas du tout la contester. On met en évidence le fait qu'il y a un consensus apparent autour de la nécessité de densifier les espaces urbains. En fait, on voit, en regardant notamment les discours et les débats qu'il y a autour des politiques de densification urbaine, à la fois au niveau national et au niveau local, que cette notion est éminemment politique, et donc ça rejoint un peu les constatations qu'on a faites ce matin. Malgré le fait qu'on veuille présenter certains outils de l'aménagement durable comme des choses très naturelles, comme évidentes, on voit bien que sous-jacent, il y a des conflits, des divergences qui sont attachées à ces mesures d'organisation urbaine, et en particulier au niveau de la densification. Donc je reviendrai très rapidement aussi sur les intérêts en jeu autour des politiques qui la régulent. Et enfin, je voulais vous parler plus particulièrement des politiques locales de densification urbaine et de ce qui se joue autour de ces politiques locales, puisque malgré le fait que, de manière un peu systématique, les autorités locales convoquent en fait le développement durable comme l'argument un peu naturel et évident pour la mise en place de ces politiques et de ces mesures. En fait, on voit très bien, quand on analyse un peu plus précisément les enjeux qui sont attachés à ces politiques-là, il peut y avoir des objectifs extrêmement différenciés en fonction des municipalités qui mettent en place des politiques de densification. Donc des enjeux divergents, différenciés, alors qu'on a un registre de justification de ces politiques qui est le même. Donc c'est un peu autour de ça que ma présentation va porter. Alors, donc, tout d'abord, rapidement, au niveau national, donc, le développement durable comme argument pour légitimer les politiques d'identification urbaine. Bon, c'est certainement des choses que vous connaissez déjà, donc je vais passer assez vite, mais je voulais juste parler d'abord donc, de la mise à l'agenda politique de la densification, pour rappeler le fait que si la densification est aujourd'hui affichée par les pouvoirs publics de nombreux pays occidentaux comme une stratégie centrale pour la production de villes durables, il faut rappeler donc que cette préconisation des actions de densification est relativement nouvelle, en fait, au regard de l'histoire des discours politiques sur la densité et au regard de l'histoire des politiques urbaines, et même récente. Si on regarde les 50-60 dernières années en France, la densification n'a pas toujours été une mesure d'organisation urbaine, bien au contraire. Alors, si on regarde un peu plus en arrière, en France, donc selon la période historique où l'on se place, la notion de densité urbaine, alors aujourd'hui elle est porteuse de valeurs qui sont associés à, par exemple, l'urbanité, la citoyenneté, le développement durable, donc sous l'effet voilà, du concept du développement durable. Si on revient un peu plus en arrière, par exemple, sous le paradigme hygiéniste, elle est associée, la densité urbaine, à, enfin, en tout cas, elle évoque des images telles que l'impureté, les épidémies, et donc, sous le paradigme hygiéniste, la densité, la densification urbaine, a longtemps évoqué les idées d'entassement, d'insalubrité, de promiscuité et de déficience d'hygiène. Et donc, à ce moment-là, elle représentait pour les pouvoirs publics l'inacceptable en matière de logement et d'agencement du bâti en ville. Et donc, pendant très longtemps, elle restait porteuse d'idées de valeurs connotées de manière assez négative. Bon, c'est des choses assez évidentes, je pense, ici. Dans d'autres arènes, ça l'est beaucoup moins. Donc, c'est juste pour rappeler le fait qu'on a aussi une construction sociale de la densité comme action positive pour la production de la ville. Et donc, cette perception négative de la densité, donc on pourrait revenir un peu plus précisément sur les 60 dernières années, et notamment les politiques urbaines, je ne vais pas revenir dessus. On peut évoquer rapidement, par exemple, l'imaginaire négatif de la densité, notamment associé aux grands ensembles. C'est quelque chose qui perdure encore aujourd'hui, en tout cas qui fait peur. Donc on associe systématiquement densification avec tours, grands ensembles, et donc une période de l'histoire urbaine qui est vécue un peu de manière douloureuse en France. Et donc tout ça pour dire que finalement, voilà, c'est pas si naturel que ça de dire qu'il faut densifier les espaces urbains pour le bien de tous. Et donc c'est bien à la faveur du développement durable, et notamment avec à l'appui des principes d'organisation urbaine pour justifier la densité, notamment le concept de ville compacte ou en Amérique du Nord de smart growth, donc ville intelligente, ou croissance intelligente, excusez-moi, qu'on a pu réhabiliter en fait les actions de densification urbaine. Donc rapidement, si depuis plus de 40 ans maintenant, les politiques publiques de nombreux pays font de la dilution de la tâche urbaine un enjeu de lutte majeur, c'est vraiment uniquement depuis le début des années 90, c'est-à-dire qu'on parlait du mitage urbain dans les années 70, mais on n'en faisait pas forcément un objet de politique publique à part entière, et donc c'est vraiment à partir des années 90 qu'on assiste à un retournement des politiques publiques, notamment en faveur d'actions de densification, et on va lier la densification à la lutte contre l'étalement urbain. Et donc c'est notamment avec le rapport Vauban, donc vous connaissez tous ici, donc qui était publié en 1987, qui consacre l'avènement du développement durable, qu'on amène à repenser donc de manière conjointe les dimensions économiques, environnementales et sociales des modes de développement. Donc, je ne reviens pas là-dessus. Mais par rapport à ce concept-là, pourquoi est-ce qu'on veut lier à la densification ? Donc aujourd'hui, nombreux sont les analystes à considérer que la réponse au problème posé par le concept de développement durable doit être en majeure partie donné à travers une meilleure planification des villes. Et donc, on trouve dans pas mal de travaux qui sont repris par les politiques l'idée selon laquelle l'enjeu, c'est de mettre en place des politiques de gestion de la croissance des villes, mais aussi d'organisation et de modelage des formes urbaines qui contribuent à un fonctionnement urbain durable. Et donc l'idée se diffuse que face à des enjeux de portée mondiale tels que l'effet de serre ou encore l'augmentation de la pollution, il conviendrait, entre autres choses, de limiter la place de l'automobile dans la ville. Et pour de nombreux professionnels et certains théoriciens de l'aménagement, c'est pour ça qu'on parlait de la théorie de la ville compacte, la densification serait l'un des meilleurs outils à la disposition des professionnels pour atteindre cet objectif, et notamment parce qu'elle est supposée, je dis bien supposée, favoriser une utilisation restreinte de la voiture. Et donc c'est ce qui est mis en évidence, notamment dans la théorie de la ville compacte. Encore une fois, très rapidement, cette théorie établit le postulat selon lequel les flux de mobilité sont en partie influencés par la morphologie urbaine. Et donc, à partir un peu de cette théorie, nombreux sont les chercheurs qui ont tenté de mettre en évidence les liens entre morphologie urbaine, densité, notamment densité résidentielle, mais aussi densité d'activité, et émissions de gaz à effet de serre. L'argument principal de ces recherches, c'est qu'une organisation de la ville réduisant le nombre de déplacements peut engendrer des économies d'énergie. Donc les facteurs tels que la densité résidentielle, le degré d'humidité entre les différents types d'usage des sols sont considérés comme fondamentaux dans cette théorie. Et donc, à ce titre, les travaux de Newman et Ken Murphy, donc ces deux chercheurs australiens, constituent aujourd'hui une référence en la matière. Dans un ouvrage qui s'intitule « Cities and Automobiles »,« Automobile », désolé pour l'accent, « Dependence », les deux chercheurs australiens ont étudié la relation entre la consommation de pétrole liée au transport par habitant et la densité de population dans 37 grandes villes mondiales. Donc c'est cette courbe qui est mondialement connue aujourd'hui. Alors, ils mettent en évidence, hein, dans ce travail, une corrélation négative existant entre densité de population et consommation énergétique liée au transport. Et donc, en fait, en conclusion de leurs travaux, c'est ce qui est régulièrement mis en avant, Newman et Ken Murphy recommandent sans ambiguïté la mise en œuvre de politiques urbaines promouvant la compacité urbaine et l'utilisation des transports en public. Et donc, ils disent qu'il faut densifier les espaces urbains. Et donc leurs résultats ont été très largement mobilisés, alors notamment en Europe, au-delà même de la seule sphère scientifique, puisque la courbe de Newman et Penworthy fait office de justification dans de nombreux documents, alors qu'on peut appeler documents politico-scientifiques, on ne sait pas trop quels sont leurs statuts, mais notamment par exemple dans le livre vert sur l'environnement urbain de la Communauté européenne. Donc vraiment, quand on regarde ces documents et qu'on essaye de voir les fondements scientifiques, c'est presque exclusivement la courbe de Newman et Ken Murphy qui est mobilisée, alors qu'il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de débats académiques sur le bien fondé de cette courbe, alors je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais notamment sur la méthodologie utilisée, mais aussi sur les préconisations en fait, qui sont adoptées, puisqu'en fait là on regarde uniquement les flux de mobilité et on n'essaye pas de regarder les autres déterminants de la mobilité. En plus, il regarde uniquement les déplacements en fait, domicile-travail. Il y a beaucoup de travaux qui ont mis en évidence que les déplacements de loisirs sont une part importante aussi dans cette question. Bon, je ne m'étends pas là-dessus, mais tout ça pour dire qu'aujourd'hui, on a cette courbe-là qui est très largement mobilisée, alors qu'elle fait débat sur le plan scientifique. Alors, rapidement aussi, parce que ce n'est pas vraiment une nouveauté pour vous, donc je vais juste passer très rapidement. Donc, là, le propos, c'était de dire que donc, cette mise en avant de la théorie de la ville compacte et donc finalement les préconisations en faveur des politiques de densification urbaine. Tout ça, bien sûr, c'est fortement cristallisé. Alors, au sein de ce qu'on peut appeler, un référentiel peut-être de durabilité. Alors, c'est peut-être un référentiel juste apparent, en tout cas, un référentiel qu'on met en avant. Il y a peut-être un référentiel réel de politique. On parlait tout à l'heure de néolibéralisation, est-ce qu'il n'y a pas aussi un référentiel qu'on essaye de montrer et qui va dicter des valeurs, des images et des façons d'organiser la société et en tout cas pour ce qui nous intéresse, la ville. Et donc la densification urbaine, elle est présentée par les pouvoirs publics justement comme une solution à l'équation posée par la ville durable. Elle est en quelque sorte devenue au sein de ce système de pensée, un argument d'autorité et parfois même un élément de marketing urbain. Dire que l'on va densifier aujourd'hui, pour de nombreux acteurs, c'est vraiment se prononcer pour l'application du concept de développement durable sur le territoire. Et donc on le voit dans le discours de beaucoup d'élus qui se revendiquent comme étant courageux, c'est-à-dire qu'ils vont vraiment penser pas forcément au mandat suivant, mais on va évoquer le fait que pour la planète, il faut densifier les espaces urbains. Et donc c'est vraiment uniquement ces arguments, en tout cas, qu'on met en avant dans la justification des politiques menées. Et donc, est-ce qu'on peut parler de référentiel ou pas? En tout cas, si référentiel il y a, la densification est partie intégrante d'un algorithme de ce référentiel en justement contribuant à limiter la place de l'automobile en ville, à préserver les espaces naturels et agricoles et indirectement, du coup, à diminuer les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, elle est aujourd'hui présentée comme une mesure clé du développement urbain durable. Alors, j'avais aussi une partie sur les facteurs de succès de la notion de densité et des actions de densification, puisqu'on peut repérer un certain nombre d'acteurs pour qui il est utile, par intérêt et ou par idéologie, de promouvoir les politiques de densification, ce qui concourt à une alliance un peu insolite entre les architectes, les urbanistes, les promoteurs immobiliers, les élus des villes-centres ou encore les écologistes. Bon, on peut analyser par exemple le programme des écologistes dans différents pays, notamment l'ELV, et c'est assez intéressant de voir justement sur le cas particulier des écologistes un renversement en fait de perception de ce qu'est une bonne organisation de la ville entre en tout cas une certaine fraction des écologistes dans les années 70 qui valorisaient plutôt le retour à la terre, la vie près de la nature, etc. Aujourd'hui, on va plutôt favoriser justement la concentration des activités et des populations dans des pôles urbains, et donc on va être plutôt en faveur, en tout cas c'est ce qu'on voit dans le programme des écologistes présidentiels de 2012, une nette orientation en faveur des politiques de densification urbaine. Voilà, je ferme cette parenthèse parce que je crois que j'ai pas beaucoup de temps, mais c'était pour dire que finalement la mise à l'agenda politique des mesures de densification est, on voit, le fruit d'une fenêtre d'opportunité, hein, pour utiliser un peu les termes des politistes, fenêtre d'opportunité qui s'est ouverte à la faveur d'une conjonction de facteurs, d'acteurs. Et donc on voit que cette mise à l'agenda a vraiment de multiples composantes. Très rapidement, plutôt sur le registre de dire que effectivement, ce qui apparaît de manière officielle autour de la densification, c'est un consensus, une évidence, sous couvert de protection de la planète, d'application du modèle de développement durable. Et donc, on pourrait, à la lecture de certains documents politiques et de discours autour de la densification, se dire que cette solution, c'est vraiment une solution technique, apolitique. On n'a pas besoin de la discuter. Pourtant, quand on s'intéresse à la fois au débat législatif qu'il y a eu autour justement des politiques de régulation de la densification, on voit qu'il y a des imaginaires et des intérêts très contrastés autour de cette mesure d'organisation urbaine. De la même manière, on peut s'intéresser à différents groupes d'intérêts et de pression en France qui peuvent avoir une influence au niveau national sur la forme et le contenu des politiques urbaines et pour ce qui nous intéresse autour de la régulation de la densification. Donc au départ c'était un peu long ce que j'avais prévu, mais en gros on peut essayer d'analyser en fait les discours et les prises de position publiques de certains groupes d'intérêt, notamment dans les questions d'aménagement et les acteurs professionnels de la production urbaine. Par exemple, le SNAL, c'est le Syndicat National des Aménageurs Lotisseurs, fustige alors une forme de production urbaine qui est le diffus, c'est-à-dire quand les particuliers déposent un permis de construire, comme étant la cause de l'étalement urbain. Donc on voit que le SNAL est plutôt favorable à l'ouverture de nouveaux secteurs à urbaniser pour favoriser la production de lotissements encadrés, plutôt que de permettre la production en diffus. Inversement, les producteurs de maisons individuelles sont un peu en décalage avec ce discours et disent que c'est plutôt le manque d'ouverture à l'urbanisation qui provoque l'étalement urbain incontrôlé, mais que la procédure du diffus qu'ils utilisent abondamment n'est pas un problème puisqu'elle permet aussi la densification des espaces urbains. Bon, c'est un peu technique, donc c'est peut-être un peu flou tout ça. Je vais passer très rapidement parce que sinon il faudrait que j'explique un peu plus longuement. Parallèlement, donc, sur les questions foncières, les associations de protection de l'environnement et la Fédération nationale du syndicat des exploitants agricoles se rejoignent pour défendre une gestion économe de l'espace et donc ils sont favorables aux politiques de densification urbaine. Et donc ils peuvent être en opposition à certaines prises de position telles que les aménageurs lotisseurs et certains promoteurs immobiliers. Rapidement, sur ces débats-là, on peut différencier ce qu'on peut appeler deux grandes coalitions de causes sur la question de la densification, en tout cas sur les modes de construction de logements aujourd'hui en France. Une coalition de causes qui est plutôt portée par des organisations. Alors, je suis pas sûre de l'utilisation que je fais de ces termes de petite. Vous me corrigerez du coup et voir comment est-ce qu'on peut justement les utiliser ou pas et est-ce que c'est vraiment pertinent ici. Donc une coalition de causes peut être portée par des organisations comme le SNAL et dans une certaine mesure par certains promoteurs immobiliers qui sont eux favorables à la possibilité de construire des logements en extension urbaine. Une autre coalition de causes qui est plutôt pour que il y a une concentration de la construction de logements, donc le plus en densification possible, et qui est là plutôt portée par les associations de protection de l'environnement, alors les agriculteurs au niveau national, parce que si on regarde au niveau local, ça n'est pas toujours le cas, et ponctuellement par d'autres types de promoteurs immobiliers. Et donc, les différentes prises de position ici exposées sont révélatrices des intérêts bien différenciés qu'il y a, qui sont en jeu autour des questions de densification. Donc ça, c'était avant tout pour mettre en évidence le caractère éminemment politique de cette mesure d'organisation urbaine. Voilà, alors, je ne sais pas combien de temps il me reste. Donc mon propos c'était plutôt sur le niveau local, mon travail a plutôt porté là-dessus. Donc qu'en est-il au niveau local? Donc dans la première partie de cette communication, on a vu que si la densification apparaît comme une mesure clé à l'ère du développement durable au niveau national, elle fait l'objet de débats aussi bien dans la sphère académique que dans la sphère professionnelle, et on ne l'a pas détaillé, mais aussi dans la sphère politique. Au niveau, en tout cas, politique, au niveau des acteurs qui font les politiques publiques. Au niveau local, donc, on s'intéresse dans la suite de cette communication à ce niveau-là, il faut savoir que le développement durable fait partie des arguments systématiquement convoqués pour justifier les politiques de densification mises en place. Donc on évoque systématiquement dans les PLU, dans les discours des élus, le fait qu'il faut lutter contre l'étalement urbain, le fait qu'il faut construire des logements en nombre, et donc la seule solution, c'est vraiment la densification urbaine. Dans cette partie-là, même si on n'a pas beaucoup de temps pour détailler, l'idée principale que je voulais développer, c'est l'idée selon laquelle, finalement, le discours environnemental, le développement durable en général, apparaît souvent comme un outil de légitimation. Donc ça, c'est ce qu'on a en première couche, quoi, s'il apparaît de manière superficielle, pour passer outre des résistances locales et favoriser, alors c'était une des thèses de mon travail, les projets de coalition de croissance renouvelée. Alors est-ce que c'est vraiment des coalitions de croissance? Ça, c'est tout le débat. Car derrière les motivations généreuses associées donc, au développement durable, on l'a dit en introduction, et plus spécifiquement derrière l'équation densité égale vie durable, se cache souvent le vieux conflit entre la valeur d'échange et la valeur d'usage. Il faut donc s'interroger de manière critique sur la focalisation du discours en faveur de la vie durable, notamment autour de la densification. Donc, encore une fois, c'est des choses qui ont été abondamment dites ce matin. Finalement, le développement durable, cette notion, ce concept, est assez malléable, puisque la plasticité donc de cette notion-là, jointe à la capacité des arguments environnementaux à faire consensus, sont telles que les arguments mobilisés sont souvent servent à légitimer des projets et des initiatives qui peuvent être très différenciées en réalité et qui sont surtout déterminées par d'autres enjeux. Il convient donc d'analyser ces enjeux, notamment pour essayer d'extraire les objectifs alors réels ou en tout cas parallèles, notamment des politiques de densification. Et donc moi je proposais de le faire à travers une analyse des politiques locales de densification étudiées donc dans 4 municipalités en France et au Canada. Donc moi je me suis concentrée sur des municipalités périurbaines et suburbaines. Et donc j'ai mobilisé dans mon travail, entre autres, la grille d'analyse des coefficients de croissance. Alors au départ, j'avais envisagé un retour sur ma Google machine et puis une présentation des communes d'études, donc je ne vais vraiment pas avoir le temps de faire tout ça. Très rapidement, sur Urban Fortunes, donc l'ouvrage de Logan Moloch qui voilà, détaille un peu leur vision de l'organisation de la ville et des rapports de force qu'il y a là-dedans. Donc moi, ce que je voulais retenir dans ces travaux-là, c'est l'idée selon laquelle, pour Harvey Moloch notamment dans un article de 76, la ville est une growth machine, une machine de croissance qui profiterait à travers l'intensification de l'usage des sols de la zone concernée à une certaine élite dont les intérêts seraient proprement locaux. Donc ça, c'est un peu un des arguments majeurs qui est mis en avant. Donc on peut remettre en cause, justement, quand on utilise cette grille, le fait que ce soit des intérêts proprement locaux, donc on pourra les discuter. Et donc dans leur ouvrage de référence Urban Fortunes, ils décrivent leur conception de la ville et de son sol comme le lieu d'un échange commercial et financier, en même temps que les espaces urbains construits et aménagés sont des lieux de vie, ce qui permet justement de réintroduire les notions de valeur d'usage et de valeur d'échange qui reprennent de la théorie marxiste. Donc rapidement, la thèse défendue dans cet ouvrage, c'est que les rapports de force sociopolitiques sont dominés par la valeur d'échange. Bon, je vais très vite, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est un peu l'idée qui ressort de cette théorie. Et donc, les travaux de Logan et Moloch mettent en exergue la dépendance des acteurs politiques locaux à l'égard des acteurs économiques, notamment du secteur immobilier, présents sur leur territoire. Alors, cette théorie, elle était assez séduisante pour mon travail, puisque on peut considérer que les politiques de densification sont une politique spécifique de croissance urbaine. Donc, c'était intéressant de confronter un peu ces analyses à la réalité du terrain. J'imagine qu'il me reste 5 minutes, donc je vais passer, désolée, sur la présentation des communes. Alors je vais vous montrer quand même quelques photos. Donc j'ai travaillé sur Manille des Hameaux, qui est dans les Yvelines, pour mettre en évidence un processus particulier de densification, en tout cas une poétique particulière de densification, ce que j'appelle les poétiques de densification douce. Je suis vraiment désolée de passer aussi vite là-dessus. Mais en gros, donc c'est des poétiques qui favorisent de la densification à l'initiative de particuliers. Et donc, en gros, densification douce, pourquoi ? Parce qu'elle ne change pas de manière fondamentale les formes urbaines. Et donc, ça a un intérêt, notamment sur ces questions de peut-être de compromis entre valeur d'usage et valeur d'échange. Donc, ça ressemble à ça, la densification douce. Je suis désolée, hein, pas tout aussi. Mais donc, construction intercalaire, des constructions, ce qu'on appelle en drapeau, c'est-à-dire qu'on va diviser des parcelles pour construire en fond ou en front de parcelles. Très rapidement, donc pareil, j'ai essayé d'étudier des politiques un peu similaires au Canada, donc à Guelph. Il faudrait que je revienne un peu sur cette commune. Donc c'est une commune qui est, enfin une municipalité pardon, qui est située dans la banlieue de Toronto, donc qui est en Ontario. C'est à l'image de nombreuses villes américaines, nord-américaine en tout cas, une ville très étendue et majoritairement pavillonnaire. Et donc, à l'image de Manille des Hameaux, la commune de Guelph a mis en place une autre politique qu'on peut qualifier de politique de densification douce par le biais d'un dispositif qui s'appelle les appartements accessoires. Donc, il permet à des propriétaires particuliers de construire un nouveau logement, alors à l'intérieur de la maison individuelle ou à l'extérieur sur la même parcelle. Et donc, pareil, c'est un processus de densification douce, en tout cas, qui de manière apparente ne modifie pas trop les formes urbaines. Donc, ce qu'on peut dire surtout d'intéressant, donc là vous avez des appartements accessoires qui ont été construits à l'intérieur de maisons individuelles, donc on peut deviner par les multiples entrées. Désolée, je passe plus vite. Juste très rapidement, ce qu'on peut dire sur ces politiques de densification douce, c'est qu'elles sont articulées à une stratégie de croissance modérée. Donc, il faudrait un peu aller un peu plus en profondeur. Sur d'autres types de communes, on observe des politiques de densification forte, alors notamment à Noisy-le-Grand, en Ile-de-France, très rapidement, et à Markham, donc pareil, dans la banlieue, donc la banlieue interne de Toronto. Et donc, ce qu'on observe sur ces politiques-là, c'est des processus de densification forte qui sont explicitement articulés, cette fois-ci, à des stratégies d'attractivité économique très forte et une revendication, finalement, pour ces deux municipalités, d'être un pôle urbain secondaire de la région métropolitaine dans laquelle elle se place. Et donc, l'observation de ces politiques de densification un peu différenciées permettait de revenir un peu sur la théorie des coalitions de croissance. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est des coalitions de croissance qui sont à l'œuvre dans ces municipalités ? Donc, très rapidement, ce qu'on peut dire, c'est que, bon, par exemple, pour le cas de Marseille, c'est le plus évident, parce qu'en fait, pour le cas français, on pourrait dire qu'il y a une coalition de croissance un peu objective. Pourquoi objective ? Parce qu'il n'y a pas d'arrangement institutionnel vraiment entre les acteurs de la production urbaine, tels que les promoteurs immobiliers et les bailleurs sociaux d'ailleurs, et le pouvoir politique. En revanche, on voit très bien dans le discours des acteurs politiques que la densification est explicitement articulée à une stratégie d'attractivité économique très forte. Et donc, par exemple, à Noisy-le-Grand, quand on interroge, alors c'est pas dit dans les documents ni dans les discours officiels, par contre, quand on interroge les acteurs politiques, ils nous disent oui, mais on n'a pas le choix que de densifier les tissus pavillonnaires parce qu'on n'a plus de foncier, et comme on a intérêt à concurrencer notamment les différents pôles d'emploi de la métropole parisienne, on n'a pas le choix que de mettre en place ces politiques de densification urbaine fortes. Voilà, donc optimisation du foncier pour une stratégie un peu de compétitivité territoriale au sein de la métropole parisienne. Pour le cas de Markham, alors là, on a une dépendance des acteurs politiques aux acteurs de la construction résidentielle beaucoup plus évidente, puisque les acteurs municipaux, en tout cas le budget municipal, dépend fortement notamment des redevances d'aménagement qui constituent presque 40% du budget municipal. Et donc on voit bien là l'intérêt qu'il y a de la part d'acteurs politiques de mettre en place des politiques qui vont servir les intérêts en fait des acteurs économiques. Et encore une fois, dans une logique, donc selon les termes des élus, de concurrencer notamment Toronto et d'attirer notamment des entreprises et des ménages, alors on parlait tout à l'heure du fait que en fait on ne veut pas forcément satisfaire la population résidente, c'est le cas à Markham, puisqu'il y a vraiment un discours d'attirer des populations nouvelles qui vont changer le visage de Markham. Bon, tout ça c'est des choses assez très connues, largement discuté, mais ce n'est pas forcément le plus intéressant. Ce que je voulais souligner, c'est plutôt le cas des politiques de densification douce en réalité, puisque dans les configurations de densification douce, on assiste plutôt à la formation, alors est-ce qu'on peut parler de ça ou pas, de coalitions de croissance modérées. Ce sont là des coalitions de croissance qui sont encore davantage éloignées des schémas décrits par Logan et Bolloche, puisqu'elles visent davantage un compromis entre valeur d'usage et valeur d'échange. Alors que on voit bien que dans les deux autres configurations, c'est bien une valeur d'échange qui est plutôt mise en avant, même si les acteurs politiques n'insistent pas là-dessus. L'exemple de Manille et Hameau est parlant à ce sujet, puisqu'on a bien affaire, dans le cas de cette commune, à la mise en place d'un compromis entre les tenants d'une certaine valeur d'échange, donc les habitants qui sont demandeurs d'une possibilité d'évolution de leur pavillon. Alors, il faut savoir que la division parcellaire, quand on la permet, représente un intérêt économique très fort pour les particuliers propriétaires d'une maison individuelle, puisque du jour au lendemain, donc l'augmentation de la constructibilité augmente la valeur de leurs biens, et donc il y a une valorisation foncière très importante dans ce processus. Et donc, la commune effectue une espèce de compromis donc, entre cette valeur d'échange et peut-être la valeur d'usage, puisqu'elle permet la densification, mais dans une certaine proportion, puisqu'il y a vraiment un intérêt à préserver le cadre pavillonnaire. Et donc, je trouvais ce processus-là assez intéressant, enfin en tout cas au regard de ce que peuvent dire Logan et Moulaf, même si peut-être qu'ils s'intéressent un peu plus aux villes ou au centre des villes, donc peut-être que ça ne s'applique pas directement. Néanmoins, on voit qu'il y a une volonté de croissance dans cette municipalité, dans un contexte métropolitain où il faut quand même s'affirmer, alors à la fois pour attirer néanmoins des ménages, pour pas, par exemple, perdre un certain seuil de population qui fait qu'à un moment on va perdre une école, un certain nombre de transports en commun vont devoir être fermés, des bus, etc. Donc il y a quand même un intérêt à une certaine croissance, mais une croissance qui n'est pas celle que l'on retrouve dans notamment les théories qui sont celles, par exemple, de Logan et Moloch. Donc voilà, là, est-ce qu'on n'a pas des coalitions de croissance un peu différentes avec des systèmes d'action assez originaux qui associent par exemple les propriétaires initiateurs, donc ceux qui vont diviser leurs parcelles, l'ensemble de la communauté professionnelle de la construction diffuse, donc on a à la fois les constructeurs de maisons individuelles mais aussi les géomètres qui ont un intérêt fort à ce que ces processus se développent. Vous avez aussi les agriculteurs exploitants et non pas forcément propriétaires qui sont partie prenante de ce type de politique, c'est-à-dire qu'on va vraiment favoriser la pérennisation des espaces agricoles, contrairement à d'autres agriculteurs qui pourraient être favorables en fait à l'ouverture à l'urbanisation, puisqu'il y a un gain économique fort aussi à vendre un bout de parcelle agricole. Donc là, on voit des coalitions de croissance assez originales, donc coalitions de croissance que j'ai nommées coalitions de croissance modérées. Alors, je suis pas sûre que ce soit pertinent, mais je trouvais ça intéressant de voir les différences qu'on observe dans les politiques locales de densification dans différentes communes. Alors pour conclure, parce que je crois que je suis arrivée au bout de mon temps, l'analyse des politiques de densification au niveau national et local illustre, alors un petit peu, même si c'est pas le propos principal hein, de mon argumentation, le rôle du développement durable. Alors on le voit, en tout cas en superficie, c'est bien le développement durable qui vient légitimer les politiques urbaines mises en place. C'est au nom du développement durable que la densification est réhabilitée. Et donc, finalement, c'est la mobilisation de ce concept, même si on voit qu'il y a quand même des oppositions hein, localement, qui permet de faire apparaître la densification urbaine comme étant nécessaire pour la production de la ville. Et donc, on essaye d'évacuer, en tout cas, encore une fois, en superficie, le dissensus qu'il peut y avoir autour de ce processus de transformation urbaine. Or, on l'a vu donc à différentes reprises, la densification urbaine, il y a bien un dissensus là-dessus, elle est éminemment politique, on l'a vu à différents niveaux. Donc on l'a vu au niveau national, la question de la densification et des formes de sa mise en œuvre est au croisement d'une panoplie d'intérêts divers et divergents, qui touchent aux questions foncières, d'aménagement, de construction de logements, de protection des espaces naturels et agricoles, etc. Au niveau local, on voit que le discours autour du développement durable apparaît également comme un outil de légitimation pour passer outre des résistances locales et favoriser alors les projets de coalition de croissance renouvelés peut-être en faveur de la densification. Et les deux grands types de processus de densification mis en évidence, densification douce, densification forte, pourraient relever de deux versions sensiblement différentes du modèle de la coalition de croissance qui se distingue notamment par la place des municipalités étudiées dans les espaces métropolitains respectifs. Alors de parler de place ou de rôle dans ces espaces métropolitains. En tout cas, dans les deux modèles, on assiste à un moment donné à une combinaison de facteurs qui favorise une croissance urbaine, voire économique, par la densification plus ou moins forte des espaces à dominante pavillonnaire. Si le registre de légitimation, encore une fois, de ces politiques est très analogue, hein, à chaque fois on a vraiment les mêmes choses dans les documents notamment d'urbanisme. La densification, donc c'est ce qu'on dit, la densification permet de construire des logements sans empiéter sur les espaces agricoles et naturels. Alors pourtant, donc, une justification en tout cas apparente qui est toujours la même, en revanche, des politiques menées dans les deux modèles qui sont très différentes. Donc dans un cas qui s'apparente à peut-être un modèle de densification douce, on a un modèle de croissance modérée. Donc on l'a dit, avec une convergence d'intérêts entre des acteurs très différents pour cette densification douce. Dans le second cas, qui s'apparente à un modèle de croissance soutenu, on observe une alliance alors qui peut être objective, le cas de Noisy-le-Grand, donc, qui se distingue quand même assez nettement de ce qu'observe Logan et Moloch, ou stratégique, l'exemple de Markham, où là on est un peu plus proche de ce qu'ils observent, porté par la puissance publique et les grands acteurs privés de la construction en faveur de la croissance urbaine et économique, notamment par la densification forte des espaces à dominante taille de mer. Donc dans les deux cas, cette densification est clairement articulée à une stratégie entrepreneuriale affirmée visant, donc c'est dit, hein, à attirer de nouveaux ménages et des entreprises sur le territoire. Dans les processus de densification douce, en revanche, et je terminerai là-dessus, plus particulièrement dans le cas de Douai, alors que la municipalité pourrait miser sur une stratégie plus agressive de développement économique, alors notamment parce qu'elle bénéficie de financements provinciaux pour investir sur son centre de croissance, on peut voir au contraire la stratégie municipale de Guelph comme une stratégie de résistance vis-à-vis de ces politiques entrepreneuriales qui sont notamment fortement encouragées par la province. Puisque, en fait, malgré des objectifs obligatoires fixés par la province de densification extrêmement importants, elle demande sans cesse des recours pour diminuer ces objectifs pour favoriser un développement urbain à taille humaine, alors que voilà, pourrait vraiment avoir une stratégie tout à fait autre. Donc en tout état de cause, c'est bien une autre voie qui est privilégiée à Guelph, ce qui peut remettre un peu de discussion dans l'hypothèse d'une néolibéralisation forcément systématique des politiques urbaines et tout au niveau local. Voilà.